On est en train d'étudier l'étude sur la prière. Puis le sujet qu'on va voir à soir, il n'est pas plus important que les autres, mais il n'est pas moins important non plus. Tous les sujets qu'on parle sur la prière sont importants. Il faut les comprendre, puis il faut, de toutes nos forces, puis si on n'y arrive pas, faut demander l'aide au Seigneur pour être capable d'arriver à vivre comme cela, comme que si on va le voir tantôt. Il y a tellement de belles choses en parole qui veulent nous amener, des enseignements qui veulent nous amener à grandir dans la foi, puis être capable de présenter à Dieu des prières efficaces, des prières qui vont être exaucées. Puis il y a des conditions dans la parole de Dieu pour arriver à présenter des prières efficaces. Des prières efficaces, c'est des prières qui ont été exaucées. Parce que tu peux faire beaucoup de prières qui sont pas exaucées. C'est pas des prières efficaces. Ça, c'est des prières. Il y a des raisons pourquoi ils sont pas exaucés, là, mais c'est des prières qui servent pas à grand-chose s'ils n'ont pas atteint leur objectif de recevoir selon l'exaucement. On a vu dans les autres études, dans quelques études antérieures, quelques points pour présenter des prières efficaces. Premièrement, il fallait être proche du Seigneur. Parce que quand tu es proche du Seigneur, tu marches avec le Seigneur, tu as une relation avec lui, puis là, tu apprends à l'écouter. Puis si tu l'écoutes, puis il dit des affaires, ça augmente ta foi, puis ça te booste au niveau de prier, puis de présenter des prières sans douter, des prières de foi. Parce que Dieu va te dire, il va te guider, prie pour cette personne-là. Là, tu es sûr que si tu pries pour cette personne-là, tu vas être exaucé. Ils viennent de te dire de le faire. Quand ils te guident, ben, tu as de l'assurance. Fait que développer notre relation avec Jésus, ça c'est important pour être à l'écoute, ça augmente notre foi. Un autre point important qu'on a vu, c'est de se rappeler qu'on a reçu des témoignages. Ils sont où ces témoignages-là? Mais dans la Bible, aussi les témoignages de gens qui ont été exaucés. Ça nous dit en parole qu'un tel il a prié puis il a vu tel exaucement. Ça, c'est pourquoi que ça nous a été écrit voilà 2000 ans ou voilà 4000 ans? C'est parce que Dieu voulait qu'on ait ce témoignage-là dans notre esprit pour qu'on s'en rappelle. Puis que ça nous donne de l'assurance, on a des témoignages qui nous disent que des gens ont demandé telle affaire à Dieu, puis Dieu leur a donné, c'est pour augmenter notre foi. Fait qu'à chaque fois qu'on voit des témoignages dans la Bible, ou on entend des témoignages dans l'Église d'une personne qui a prié pour une affaire, puis elle a été exaucée, mais les témoignages, c'est important de les écouter, celles de la Bible comme celles qu'on entend, parce que Dieu veut booster notre foi pour qu'on soit capable, nous aussi, de présenter des prières de foi. Un autre point qu'on a vu pour grandir en assurance, c'est de nous rappeler ses promesses. Il y a plein de promesses dans la Bible sur tous les sujets qu'on a de besoin pour, dans notre vie. On a toutes les promesses qui sont là, que Dieu nous dit, prie pour cela, je vais faire ça, puis je vais faire ça. Puis ça, c'est dans le but de booster notre foi. Puis, il est important de s'accrocher à ces promesses-là. Aujourd'hui, on va voir un autre point pour présenter des prières efficaces, des prières exaucées. Puis ça, oui, la Bible en parle, Jésus il en parle, mais c'est pas évident parce qu'on a à combattre contre notre pensée pour y arriver à cela. C'est de croire sans douter. Si tu veux arriver à présenter des prières qui sont exaucées, il faut que tu sois capable de prier sans douter. On va regarder des choses là-dessus. Je crois que la pire pensée qu'on peut avoir pour bloquer les chrétiens puis les empêcher de présenter des prières efficaces, c'est le doute. Le doute, ça ravage des églises. Quand les gens commencent à pas croire aux promesses de Dieu, pas croire que Dieu pourrait faire telle et telle chose, quand le monde commence à croire ça, puis sont rendus dans l'Église qui s'encouragent à croire que Dieu, il veut pas faire ça, puis on mettra plus notre confiance dans les médecins qu'en Dieu, on est tellement rempli de doutes sur que Dieu voudra le faire ou que Dieu pourra le faire qu'on le demande même plus. Nos doutes nous paralysent. Nous bloque. nous empêche d'obtenir des choses de la part de Dieu. Pourtant, il y a plein de promesses que Dieu il a dit qu'il donnera des dons, puis il y aura des miracles qui se feraient par l'imposition des mains. Mais Jésus s'est posé la question, quand je vais revenir, vais-je trouver de la foi sur la terre? Le Seigneur y a expliqué beaucoup d'enseignements pour mettre en évidence la foi et le doute. Il a expliqué des choses, il a expliqué des situations, puis on va en voir quelques-unes. Jésus, il aimerait qu'on arrête de douter. Il voudrait qu'on ait foi en Dieu, qu'on puisse être capable de mettre notre confiance en Dieu. Parce que Dieu, il est tout puissant. Si on a plus ça, c'est parce qu'on s'est nourri de doutes. Si on a plus cette idée-là. Moi, ça fait 38 ans que je suis chrétien, puis ça peut arriver des journées que je doute. Puis, est-ce que ça arrive à tout le monde de douter? Mais Dieu veut pas qu'on ait des doutes. Mais ça l'arrive. Mais il faut arriver à vivre de façon à nourrir notre foi, puis à chasser les pensées de doute qu'on entend. Quand quelqu'un est en train de faire de quoi, puis il dit, « Oh, ça marchera jamais. » Mais en disant ça, ils viennent de dire qu'il n'y a pas de solution pour son problème. Mais pourtant, Dieu a plein de promesses pour tous les problèmes. Jésus a dit que par la foi sans douter, nous pourrions voir des miracles extraordinaires. Dans Marc 11, les versets 20 à 24. J'encourage à aller lire ce petit passage-là avec moi. Marc 11, les versets 20 à 24. Jésus, il venait juste de sortir du temple, là, puis il a maudit un figuier. Un arbre, Jésus avait faim, il voulait manger des figues. Puis il n'y en avait pas d'arbre, c'était même pas la saison. Mais Jésus a maudit le figuier. Il a dit que jamais de fruits ne naissent en toi. Il a prononcé une parole, puis le figuier a séché. Quand ils ont repassé le lendemain, ils l'ont vu qu'il était sec. Là, on arrive là, le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Puis quand ça sèche, quand un arbre meurt, ça prend des jours, des mois, avant qu'il soit sec, bord en bord. Hein? Là, il était sec le lendemain matin. Fait que c'était un miracle. Pierre, se rappelant de ce qui s'était passé, dit à Jésus, « Rabbi, regarde le figuier que tu as maudit, a séché. » Jésus prit la parole et leur dit, « Ayez foi en Dieu. » Là, on arrive dans ce que Jésus il voudrait nous programmer là, dans notre tête qu'on ait cette pensée-là, avoir foi en Dieu, avoir confiance en Dieu. Il dit, au verset 23, « Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, si tu doutes point, c'est le doute là, qu'on veut regarder ce soir, il dit, « Aie foi en Dieu, mais il faut pas que tu doutes. Si tu ne doutes pas en ton cœur, mais que tu crois ce que tu dis arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. » Il n'y a pas de place pour le doute là-dedans. Il dit, tout ce que vous demanderez en priant, quand tu sais qu'une chose est demandée selon la volonté de Dieu, hein, tu sais que Dieu va t'écouter parce que c'est une promesse, puis là tu pries basé sur la promesse, puis tout, tu sais que Dieu va t'écouter quand tu pries parce que c'est basé sur une promesse. Tout ce que tu vas demander en priant, crois que tu l'as reçu. Ça veut dire que dans ta tête, au lieu de douter, au lieu de chercher des manières, « Oh, ça marchera pas. » Dites-vous, disons-nous, c'est en train de s'accomplir. Là, tu peux même t'imaginer l'avoir reçu puis l'avoir, cette affaire-là, dans les mains. Mettons, tu pries pour une guérison de quelqu'un, mais tu vas voir, tu vois déjà dans ta tête que la personne est en train de guérir. C'est ça là, qu'il faudra avoir comme scénario dans notre tête. Que là, Dieu est en train de mettre sa main parce que tu l'as demandé à Dieu. Dieu est en train de mettre sa main pour guérir la personne, puis c'est en train de se faire. Si on pensera comme ça, il dit, tout ce que vous demandez, croyez, vous l'avez reçu, vous le verrez s'accomplir. Jésus n'est pas menteur. C'est nous qu'il faut adapter notre manière de penser conforme à la parole. Le Saint-Esprit, au travers d'Élisabeth, vous savez l'histoire d'Élisabeth, qui était la cousine de Marie, la mère de Jésus. Elle était tombée enceinte, puis là, elle était dans son sixième mois. Puis là, Marie, la mère de Jésus, elle n'avait pas encore été enceinte, mais elle avait eu la promesse qu'elle était pour tomber enceinte. Elle était voir Marie, Élisabeth. Marie est allée voir Élisabeth pour aller y aider parce qu'elle était dans son sixième mois. Puis, quand elle est rentrée dans la maison, Élisabeth, elle était pour avoir Jean-Baptiste comme bébé. Le moment qu'elle a entendu Marie rentrer dans la maison, la Bible a dit que Élisabeth était remplie du Saint-Esprit et elle s'est mise à parler à Marie. Il y a une phrase qu'elle a dit à Marie, puis cette phrase-là est importante dans Luc 1, 45. Parce que Marie venait d'avoir la promesse qui était pour être enceinte par la puissance de Dieu qui va tomber sur elle, puis qu'elle enfantera le Fils de Dieu. Puis elle a cru en cette promesse-là. Puis, dans Luc 1, 45, ça nous dit, Élisabeth qui parlait, « Heureuse celle qui a cru, parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. » Voyez-vous, dans ce verset-là, ça en dit long. Parce que ça aurait pu arriver que ça n'aille pas son accomplissement. Il fallait que Marie, qui a reçu la parole du Seigneur, c'est une prophétie ou une parole d'un ange, ou peu importe la parole sur soi du Seigneur, tu es frappé par un verset parce que Dieu est en train de te montrer quelque chose pour toi, puis il veut te convaincre de cela, puis si tu y crois pas, ça ne marchera pas, si tu ne l'auras pas. Mais si tu y crois, ce que tu es en train de recevoir, ça va avoir son accomplissement. Voyez-vous comment c'est important de recevoir avec foi une parole qu'on entend du Seigneur, puis pas la laisser s'échapper. Des fois, on entend des paroles, depuis le temps qu'on est chrétien, Dieu nous a parlé souvent, puis souvent, on a oublié ce que Dieu nous avait dit. On y croit plus, on l'a oublié. On s'accroche plus à la promesse. Il nous a fait des promesses, puis c'était, puis dans le temps de Samuel, ça disait que les paroles étaient rares, puis il n'en laissait pas tomber une à terre, une promesse. Quand il entendait une parole du Seigneur, il l'écrivait. C'est important quand on entend des paroles inspirées par le Saint-Esprit, mais les garder, puis les s'en rappeler. Ça nous dit même dans un autre verset que Marie, elle, a repassé ces choses dans son cœur. Tout ce qu'elle avait entendu des anges, puis des paroles prophétiques dans le temple, à propos de l'enfant qu'elle était pour avoir, mais elle les gardait dans son cœur. Puis c'est ça qui fait qu'on va avoir l'accomplissement. Ça dit, heureuse celle qui a cru, parce que les choses qui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. Il y a beaucoup de gens qui examinent l'extérieur des choses au lieu d'examiner ça vient-tu de Dieu. Puis une fois que tu es sûr que ça vient de Dieu, de le croire, même si tu es dans ta tête, tu seras porté d'analyser humainement parlant. Mais il y a beaucoup de gens qui examinent extérieurement les choses. Ils regardent ça avec les yeux du naturel, physique, tu vois, à la manière humaine, à la pensée humaine. Mettons, tu vois quelqu'un avec la main paralysée, toute sec, là. Puis là, tu dis, oh, il est fait, lui, là, il va garder ça à la vie. Si tu regardes ça humainement parlant, les médecins ne peuvent rien faire pour cela. Fait qu'il va dire, oh, ben lui, il n'a rien à faire pour lui, il le regarde humainement parlant. Mais il ne croit pas que Dieu pourra le guérir. Mais ils ont fait la même chose dans le temps de Jésus, certaines personnes. Jésus est allé dans la ville où ce qui était élevé. Puis, Quand les gens ont vu Jésus, ils étaient étonnés. Là, tout le monde était étonné de voir tout ce que Jésus disait de sa bouche puis tout ce qui se passait comme miracle ailleurs. Il arrive là, il dit, quand le sabbat fut venu, il se mit à enseigner dans la synagogue. Puis là, il devait expliquer ce que le Seigneur faisait comme miracle, etc. Il y a beaucoup de gens qui l'entendirent, qui étaient étonnés. Ils disaient, d'où lui viennent ces choses? Là, il essayait de comprendre où ce que ça devenait. Là, il regardait Jésus avec les yeux humains. Ils l'ont vu grandir, là. C'était le fils de Joseph, c'était le fils de Marie. Qu'est-ce que ça y vient, tout ça, là? Il n'avait pas été à l'école pour étudier. Toutes sortes d'idées qui peuvent venir dans la tête. Il dit, quelle est cette sagesse qui a été donnée? Puis comment de tels miracles se font-ils par ses mains? N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de Jose, de Jude, puis de Simon? Ben, Jésus avait des frères. Et ses sœurs ne sont-elles pas aussi parmi nous? Et il était pour eux une occasion de chute. Quand le monde regardait Jésus, il le regardait physiquement. Puis il dit, c'est un petit jeune qu'on connaît depuis qu'il est enfant, puis on connaît ses parents, puis on le sait qu'est-ce qu'il a fait comme vie. Puis il voyait Jésus humainement parlant. Mais ils ne pouvaient pas comprendre dans leur esprit, ça ne leur rentrait pas dans la tête, qu'ils pourraient avoir une sagesse pour pouvoir s'exprimer comme ils le faisaient, puis d'avoir dans ses mains la puissance de Dieu pour guérir les malades, puis chasser des démons, puis tout le kit. Ils n'en revenaient pas, mais ils ne comprenaient pas. Pourquoi? Parce qu'ils analysaient la vie avec les yeux humains, plutôt qu'avec les yeux spirituels. S'ils auraient compris, peut-être qu'ils ne l'avaient pas entendu, que Marie est tombée enceinte sans Joseph, puis que là, c'est un ange qui lui a apparu pour lui dire, s'il aurait compris ça, peut-être ça lui aurait ouvert les yeux, mais on voit que quand que l'humain regarde les choses avec les yeux humains, il ne comprend pas les choses de Dieu, puis ça crée des doutes dans son esprit, à cause qu'on dit, ça c'est Jésus, on le connaît, on ne croit pas que ça puisse se faire, puis ils ont eu des doutes. Puis Jésus n'a pas pu faire là de miracle à cause de leurs doutes. Jésus dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents, puis dans sa maison. Il ne put faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il imposa les mains à quelques malades et les guérit. Et il s'étonnait de leur incrédulité. Jésus s'étonnait de leur incrédulité. Il y avait des témoignages, il venait de prêcher, tout le monde l'a entendu prêcher, il y avait des témoignages de guérison, de miracles, il y avait toutes des preuves. Puis il a fait une coupe de guérison même à certaines personnes en imposant les mains. Puis Jésus est étonné, il dit, ça se peut-tu qu'il ne croie pas de même? Jésus, dans un sens, là, avec cette réflexion-là, il acceptait pas les doutes. Il donnait pas d'excuses puis de raisons dire qu'ils ont raison de douter. Il s'étonnait que le monde soit aussi bouché de compréhension, aussi aveugle. Puis il doit se demander peut-être la même chose pour l'Église du 20e siècle, que le monde croit quasiment plus aux miracles. Comme j'ai dit tantôt, Jésus voudrait qu'on arrête de douter. Il y a une réalité spirituelle que beaucoup de gens passent à côté de leur bénédiction parce qu'ils ont douté. Dans l'Église, là, il y a des prophéties qui étaient données, il y a des paroles qui venaient de Dieu. Je dis pas que des anges nous ont apparus, j'en ai pas vu, mais ça veut pas dire qu'on n'a pas entendu parler. Puis, en oubliant les promesses de Dieu, on passe à côté des bénédictions. Si on doute, puis on ne croit pas, puis on ne les saisit pas par la foi, on ne verra pas leur accomplissement. Comme le peuple d'Israël, ça leur avait été dit, on s'en va dans ta promise. Puis à cause de leur doute, ils ont critiqué, puis ils ont dit, il y a bien trop de géants dans cette place-là, on va pas là. Mais ils ont eu une punition, il n'y a personne de cette génération-là qui a rentré dans ta promise, même s'il y avait eu la promesse. Mais leur doute les a amenés à critiquer, puis qui ont refusé d'obéir à Dieu, ils n'ont pas obtenu, eux, la terre promise. Regardez un exemple pour dire qu'il y en a qui passent à côté de leur bénédiction. Matthieu 14, de 27 à 31. C'est Jésus qui est en train de marcher sur l'eau. Là, quand les disciples ramaient, ils avaient passé le trois quarts de la nuit à ramer, puis là, ils voient Jésus n'était pas embarqué dans la barque, puis là, Jésus, il marchait sur l'eau, puis il était en train de les déposer. Il y avait de la vague, là, cette journée-là. Il y avait comme une semi-tempête. Là, quand ils ont vu Jésus, ils sont mis à crier, ils ont eu peur, ils voient un fantôme. Il y a un fantôme, ils voient Jésus, ils voient quelqu'un marcher sur l'eau, ça n'arrive pas à tous les semaines. Là, Jésus leur dit aussitôt, « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Pierre répondit, « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Jésus dit, « Viens, Pierre, viens. » Imagine-toi, là, il y a eu un boost de foi, là. Il voit Jésus marcher sur l'eau. Jésus, c'est le Tout-Puissant. Ils se sont prosternés devant Jésus pour dire qu'il était Dieu. Là, il voit marcher sur l'eau. Lui, il a un boost de foi. Il dit, « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille marcher sur l'eau. » Jésus, il dit, « Viens. » Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux. Il a marché. Peut-être pas longtemps, mais il a quand même marché. Il avait la foi pour marcher. Il a marché un bout. Puis c'était ça que Dieu voulait pour Pierre, qu'il puisse être capable même d'aller rejoindre Jésus. Jésus, il a dit, viens, c'était pour viens jusqu'à moi. C'était pas juste deux, trois pas que Jésus voulait y faire. Il aurait pu se mettre à courir sur l'eau et à danser avec le Seigneur sur l'eau. Il aurait pu triper, là, bien comme il faut. Pour aller vers Jésus, il dit, il marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais, c'est là que le petit mais embarque, voyant que le vent y était fort, il eut peur. Parce que quand il y a du vent, là, il y a des vagues. Là, c'est comme s'il a sorti de la foi, il a commencé à analyser ce qu'il y a autour à la place, le physique, le naturel. Lui est habitué d'aller à la pêche sur l'eau, puis il sait c'est quoi le vent au point de vue naturel, comment ça peut faire des vagues, puis renverser une chaloupe. Mais lui, là, il dit, voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, « Seigneur, sauve-moi! » Aussitôt Jésus étendit la main, il était presque rendu à Jésus. Aussitôt Jésus étendit la main, il le saisit puis il lui dit, « Y a-tu dit, bravo, tu as réussi à marcher un bon bout? » Non, c'est pas ça que Jésus a dit. « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? » Voyez-vous, là, c'est là que la phrase que Dieu veut qu'on ait dans notre esprit, il ne veut pas qu'on ait de doute. On veut présenter des prières efficaces, là, des prières exaucées, on aura la tête remplie de doutes. On croit-tu vraiment que Dieu est capable de le faire et que Dieu va le faire? Il nous pose la question à nous, pourquoi faire vous douter? J'ai tout mis par écrit. Tout est là, les miracles ont été faits, puis les promesses sont là, puis demandez avec foi, sans douter, c'est ça qui s'attend. Jacques nous enseigne aussi de demander les promesses de Dieu, mais qu'on doit les demander sans douter. Dans Jacques, c'est écrit, je l'ai répondu, on l'a lu déjà, dans Jacques 1, le verset 5 à 8, il dit, quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qu'il donne à tous simplement et sans reproche, elle lui sera accordée, mais qu'il la demande avec foi, sans douter. Ça fait partie de la Bible, ça fait partie de l'enseignement du Nouveau Testament. Un chrétien ne devrait pas douter quand il prie. Faut que tu chasses tes doutes. Si tu as un doute qui se bâtit, c'est le diable qui essaie de t'en mettre un. C'est tes pensées charnelles qui essaient de t'en mettre un. Dieu n'en met pas de doute. Dieu, c'est la foi qui veut. Tiens, amen à cela. Les disciples, ils se posaient la question à propos de leur incapacité à chasser un démon. Pierre-Jean-Jacques était sur la montagne. Les autres apôtres, ils étaient autour d'une foule qui était là, puis il y avait un père d'un enfant qui était possédé d'un démon. Puis il avait essayé de le chasser, puis il n'avait pas été capable. Jésus s'en vient avec Pierre, Jean puis Jacques, qui descendait de la montagne, puis là, il voit cette scène-là. Puis là, Jésus arrive, puis il chasse, après avoir parlé un peu avec les gens, il chasse le mauvais esprit. Puis là, dans Matthieu 17, le verset 19 à 21. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier, « Pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon? » Parce que Jésus les avait déjà envoyés avant, quand ils ont commencé leur ministère. Il dit, chassez les démons, guérissez les malades, j'ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Il nous avait donné ce pouvoir-là. Là, ils arrivent et ils n'ont pas été capables de chasser le mauvais esprit. Il dit, pourquoi faire qu'on n'a pas pu chasser ce démon? Au verset 20, la réponse est là. Il dit, c'est à cause de votre incrédulité. C'est encore les doutes qui est venu, puis de pas croire qu'il avait le pouvoir, puis qu'il aurait pu le chasser, puis il avait pas le choix de sortir, puis il aurait pu combattre ce démon-là jusqu'à temps qu'il sorte. Jésus leur dit, je vous le dis en vérité, il continue à les enseigner sur l'incrédulité et la foi. Si vous aviez de la foi, comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. C'est Jésus qui dit ça. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Voyez-vous? Il y avait le pouvoir, il y avait l'autorité, les apôtres, de prendre l'autorité puis de chasser l'esprit. Mais c'est une sorte de démon qui sort que par la prière. Il aurait fallu qu'il persiste encore un peu plus, puis prier plus pour cela. Puis il aurait sorti, sauf qu'ils ont arrêté, ils ont baissé les bras avant que ça y sorti. Puis là, Jésus l'a fait, mais il leur a dit, c'est à cause de votre incrédulité. Vous croyez pas, vous croyez pas encore assez. C'est ça qu'il est en train de lui dire. Il dit, tu auras de la foi comme un grain de sénévé. Il dit, tu diras une montagne de s'arracher, puis elle s'arrachera. Et on l'a vu tantôt dans un autre verset, il a dit la même affaire. C'est pas la première fois qu'il parle de cela. Rien ne vous serait impossible. Si tu douteras pas, si on douteras pas, si on n'aura pas de doute dans notre esprit, puis qu'on se mettra à prier pour une chose que Dieu a promis, rien ne serait impossible. On les verrait, les choses arriver, les guérisons, les délivrances, tout ce qui fait partie de la puissance de Dieu. L'impossible est possible que si nous croyons sans douter. Rien ne vous serait impossible. Ça veut dire que l'impossible est possible si on aurait la foi sans douter. C'est le doute qui fait un obstacle à notre foi, qui détruit notre foi. Le père de l'enfant qui était possédé, il a dit à Jésus, « Si tu peux, fais quelque chose, si tu peux. » Ça, c'est, on le voit dans Marc 9, 22 et 24, c'est la même histoire, mais racontée dans l'autre évangile. « Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours et compassion de nous. » Jésus lui dit, si tu peux, c'est pas la question à poser à Jésus, ça. Si tu peux, Jésus répond, tout est possible à celui qui croit. Aussitôt, le père de l'enfant s'écria, je crois, viens au secours de mon incrédulité. On devra faire la même chose, frères et sœurs, parce que je pense qu'on doute autant que ce gars-là. On croit pas assez. On a trop de doutes dans notre esprit. Il faut demander au Seigneur de venir au secours de notre incrédulité. On a une position en Jésus, on est des rachetés, on a reçu le Saint-Esprit, il est là, on vit des affaires, mais il y a encore plus que ça. Puis si on veut présenter des prières efficaces, là, des prières exaucées, il faut arriver au point d'arrêter de douter, parce que c'est le doute qui nuit, qui met de l'incrédulité dans notre cœur. Jésus l'avait dit dans Jean 11, 40. Il a répété souvent cette parole-là, que si tu, il nous dit de croire si tu veux voir. Il dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Si tu crois, tu verras. Si tu doutes, tu verras rien. Si tu es incrédule, tu verras rien. Si tu crois, tu verras. C'est de même à travers toute la Bible, parce que même dans l'Ancien, les prophètes croyaient ce qu'ils disaient. Un dernier verset, c'est dans le Nouveau, dans Romains 4, 18 à 21, ça nous parle d'Abraham, comment est-ce qu'il avait une foi inébranlable, sans douter. L'apôtre Paul, quand il nous a écrit ça, il savait c'était à quoi de vivre par la foi. Il dit... Il parlait d'Abraham, qu'Abraham y espérait contre toute espérance. Ça veut dire, même s'il n'avait même plus de raison d'espérer, lui, il espérait encore. Il crut en sorte qu'il devient père d'un grand nombre de nations. Selon ce qui avait été dit, telle sera ta postérité. Au verset 19, « Et sans faiblir dans la foi... » Il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, puis que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, et ayant une pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. On a-tu la pleine conviction que ce que Dieu a promis, il peut l'accomplir? Mais il faut arriver dans la même dimension qu'Abraham. Marcher par la foi, être puissamment fortifié par la foi. Fortifions-nous par la foi. Chassons les doutes, l'incrédulité. Ça marche. Ça existe. Tout ce qui est écrit va s'accomplir. C'est la parole de Dieu. Puis Dieu, il est fidèle. Puis il accomplit les choses telles qu'il les a promis. Amen.